Bien, selon des données qui ont été obtenues par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, il y a pas mal d'informations qui disparaissent chaque jour. On dit qu'il y a au moins une clé USB qui donne accès aux données de santé de Québécois qui disparaît. Puis en 10 ans, on parle de presque 4000 disparitions d'informations. Ça donne accès à beaucoup de choses parce que votre fichier de le fameux DSQ, le dossier Santé Québec, ce qu'il y a sur votre fichier, c'est au-delà de votre nom puis de votre sexe, il y a où est-ce que vous habitez, le nom de vos parents, votre numéro d'assurance maladie, votre date de naissance, ce que vous prenez comme médicament, les résultats de vos analyses biomédicales, de ce que vous avez fait comme test d'imagerie, les vaccins que vous avez eus, les hospitalisations. Bref, tout est là, il manque juste votre NIP. Puis si vous étiez chez Desjardins, ben il est aussi sur le dark web. Fait que ça va pas bien, sincèrement. Hier, ça, apparemment, c'était la Journée nationale de l'informatique. C'est un peu cocasse quand même. On n'arrête pas d'apprendre que nos données partent ici et là, se ramassent sur le dark web. Et ce matin, ben, c'est les données médicales personnelles qui font l'objet de grandes inquiétudes. Appelez-moi au 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous craignez pour vos données médicales personnelles. Vous craignez que quelqu'un a joué dans votre dossier Santé Québec. Il y a des infirmières qui ont été d'ailleurs trouvées coupables d'avoir fait ça. Il y en a une l'année dernière, là. Elle passait son temps là-dessus, là. 867 infractions. Elle vérifiait le dossier d'une toute de gens qu'elle connaissait, incluant des vedettes. Il y a des policiers qui ont déjà fait ça aussi. Bref, ça va pas bien. Steve Waterhouse va nous dire, puisqu'il est spécialiste en sécurité informatique, s'il faut craindre que nos données personnelles médicales se retrouvent sur le dark web. Bonjour, Steve.
Bonjour, Isabelle.
C'est effectivement un lieu que bien des gens, il y a bien des gens là-dessus qui vont acheter des informations, des données de santé. Ça a l'air que c'est une mine d'or pour pas mal de monde.
Définitivement, parce que c'est la nouvelle façon d'échanger, de faire de l'argent avec cet échange d'informations-là. Et qui aussi peut être intéressé par de l'information de la santé? Bien, ce sont des vendeurs de produits médicaux. Ça va être aussi les compagnies d'assurance qui sont très intéressées à avoir ces informations-là. Parce que quelqu'un qui se dit pas habilité à travailler, puis là, son dossier médical indique tout autre chose, l'assureur, il est avantagé de savoir cette information-là. Donc, il y a un engouement pour toutes ces infos-là parce que de plus en plus, toutes les informations sont colligées, sont vraiment intégrées à l'informatique, alors qu'avant ça, c'était dossier papier, il fallait passer par une demande formelle aux archives et là, une semaine ou deux après, on avait la copie papier, alors que là, en deux clics, l'information est disponible.
Ouais, évidemment, c'est pas parce que la clé USB, quelqu'un d'ailleurs me le rappelle, David me dit, il y a quand même, il faut quand même avoir un mot de passe puis un identifiant. Effectivement, il a raison et on le rappelle ce matin, mais ça, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que n'importe quel employé du gouvernement, là, ça peut être un médecin, une infirmière, un pharmacien, ça peut être des archivistes médicaux, ça peut être des dentistes, même des travailleurs sociaux, ceux qui ont ces accès-là. Peuvent aller fouiller dans le dossier médical informatisé d'un peu tout le monde au Québec. Là. C'est ça que je comprends, Steve.
Oui, et puis la façon que le système a été rendu possible d'être accessible et que les gens, les professionnels de la santé puissent travailler avec, ça a été fait vraiment rapidement. Et toute cette portion-là de vérification, qui a accédé quoi et quand, puis je suis content que tu aies dit l'exemple des services policiers. Ouais. Je veux dire, il y a eu de l'abus par le passé de vérifier la plaque d'immatriculation de quelqu'un, puis là, il y a des restrictions en place. C'est là qu'on se voit comme population de demander, ben comment c'est ça qu'il n'y a pas de compte à rendre quand quelqu'un va consulter le dossier? Et s'il y a supervision, ben comment c'est ça qu'il n'y a aucune conséquence? Puis c'est ça que je trouve qui est manquant dans toute cette équation-là. S'il n'y a pas de conséquence, jamais, comme on voit avec Desjardins présentement, il n'y a pas de journalisation, il n'y aura pas trop de personnes qui vont se faire rabrouer à date. Il y a toujours juste un sujet d'intérêt, mais ça va toujours continuer. Fait que quand il y a des conséquences réelles envers les gens qui n'ont pas fait leur travail comme il faut, c'est là que les gens apprennent et il y a, à ce moment-là, correction dans le travail qui est à faire dans le futur.
Ouais, mais en même temps, c'est fascinant de voir à quel point on peut rentrer, sortir de là au moment où on dit aux gens, la seule façon dont vous pouvez avoir de l'information de votre médecin, c'est par fax. T'sais? On est encore au fax parce qu'on nous dit, vous savez, c'est beaucoup plus sécuritaire alors que dans le fond, mais il y en a qui vont se servir de ça pour dire, regardez, le fax est important alors que le fax, sincèrement,
C'est complètement faux. Là. Ouais. Ça, c'est une légende urbaine que le fax soit plus sécuritaire parce que les gens ne connaissent pas la technologie. Et le fax est aussi interceptable qu'un courrier électronique. Parce que le protocole est facilement connu. Il n'y a aucune sécurité qui est appliquée là-dessus. Et qu'est-ce qui était avant possible de faire, c'est-à-dire un appel d'un appareil à un autre, point à point. Mais aujourd'hui, ça passe par des réseaux IP. Puis des réseaux IP, ben, tu peux copier la transmission puis la voir à l'extérieur quand tu es une personne qui est à l'intérieur de l'organisation. Fait que nécessairement, il y a une certaine accessibilité parce qu'il n'y a pas de confidentialité. Et combien de fois, Isabelle, je vois aussi des professionnels de la santé qui utilisent le courrier électronique pour échanger des données personnelles de patients entre eux autres ou entre professionnels. Je veux dire, c'est déboutant parce qu'il existe des moyens peu dispendieux, accessibles pour être capable de faire une échange sécuritaire en courrier électronique. Mais les professionnels se heurtent et ne veulent pas l'intégrer, ne veulent pas prendre 5 minutes, apprendre ça, puis le faire sécuritairement. Fait qu'il y a vraiment un élément de conscientisation collectif, encore une fois, chez les professionnels à remettre en place, puis de dire « Hey, là, il faut prendre des outils, les bons outils, puis faire le travail correctement pour éviter ces genres de fuites-là. »
Mais correctement, ça veut dire quoi? Comment échanger des informations correctement, Steve?
Ben, je te donne l'exemple, Isabelle, avec un courrier électronique sécurisé, là, ça prend 15 minutes à installer. Je te dis pas de farce, là, c'est des éléments logiciels que tu installes avec peu importe l'appareil que tu utilises et peu importe le programme de courrier électronique que tu utilises, et lui va prendre ce qu'on appelle un certificat de sécurité, il va valider de qui que ça vient, et avec la clé, un échantillon de l'autre certificat à destination, tu vas créer ce qu'on appelle un cryptage asymétrique, c'est-à-dire tu vas prendre sa clé à lui publique, toi ta clé privée c'est ton certificat, puis là ça va rendre le tout sécuritaire et seulement le destinataire va pouvoir ouvrir ce courrier électronique-là et c'est quelque chose qui est très facilement abordable. Et dans un avenir approché, je l'espère qu'au gouvernement du Québec ça va être centralement intégré, comme à Défense, j'ai travaillé là-dessus en 1999, Isabelle. 1999, c'est déjà là à Défense, il s'en sert dans le gouvernement fédéral facilement comme ça avec l'utilisation d'une carte à puce. Donc, ça renforcit l'élément d'authentification, et d'imputabilité et la non-répudiation. Parce que l'autre aspect aussi, quelqu'un dit « Hey, je t'ai envoyé le courriel, tu l'as sursuit. » L'autre, s'il l'a ouvert, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas ouvert parce que le système va enregistrer qu'il l'a ouvert à telle heure, telle date. Mm-hmm. Fait que c'est des éléments comme ça faciles à mettre en place, mais qu'il y a un choix, les gens choisissent de ne pas le faire malheureusement.
Oui, évidemment, c'est quand même toute la question du bris de confidentialité de données personnelles, médicales. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que les gens me disent, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en ce moment. Il y a Benjamin qui dit qu'il faut déjà être naïf de croire que vos données ne sont pas déjà toutes sur le dark web. Il a probablement raison. Mireille dit, imaginez l'employeur, l'accès à vos données médicales. Citons qu'ils ont un médecin à disposition ou toute autre personne qui a accès donc à des codes. Votre date de naissance, votre adresse, mettons là, quelqu'un qui a ton numéro de carte d'assurance maladie, tu n'as même pas besoin du reste. Là. Avec ton numéro de carte, apparemment, tu peux avoir accès aux données. Il dit les compagnies d'assurance paieraient cher pour avoir ces données-là, qui sont confidentielles, qui normalement...
Et ils payent cher déjà, Isabelle.
Ils payent cher,
ils le font.
Hein?
Oui, ils le font systématiquement.
Je vais juste redonner notre numéro, 514-790-9850, pour nous dire si ça vous dérange ce matin qu'on apprenne ça, ce bris de confidentialité. En tout cas, Paul Brunet est avec nous. Il est président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Protection des malades, oups, ce matin, en tout cas, le gouvernement vient de nous montrer une fois de plus que on semble rentrer dans le dossier Santé Québec comme dans un moulin. Paul, ta réaction ce matin là-dessus?
Bonjour Isabelle. Écoutez, on a affaire à des personnes qui agissent de manière déviante, là.
Hein, des curieux, Paul. Moi, ce que je lis ce matin, curieux, c'est que finalement, c'est une infirmière qui est curieuse, une autre dame, là, travailleuse sociale, c'était par curiosité. Elle checkait son dossier, elle checkait le dossier de sa famille, puis le dossier de la vedette qu'elle aimait. Mais voyons donc.
C'est au moins des infractions statutaires. C'est déviant comme comportement. On peut prendre pour acquis que la grande majorité des gens ne sont pas comme ça, qu'ils font attention.
Qu'il y a du monde qui... faudrait peut-être les occuper au travail aussi, parce que normalement, t'es supposé travailler, là. T'es pas supposé être sur ton ordinateur tout le temps à fouiller, mais en même temps, qui peut voir ce que tu fais devant un ordinateur? Tu peux faire toutes sortes d'affaires. Il y a une étude qui sortait encore dernièrement, comme quoi il y avait bien des gens qui regardaient du 3X au travail. T'sais. Tu peux faire ce que tu veux. Personne ne sait ce que tu regardes, dans le fond.
Il y a des logiciels espions qui permettent de vérifier que quelqu'un ne va pas fouiller dans des données alors qu'il ne devrait pas aller fouiller dedans. On fait ça chez les services policiers pour vérifier que les employés, les policiers n'aient pas accès à certaines informations sur des conducteurs, par exemple, ou des personnes. Alors, il y a des moyens, comme votre invité le dit, mais aussitôt qu'il y a un criminel ou quelqu'un qui agit de manière déviante, c'est sûr qu'à la marge, tu vas aller chercher des gens qui vont obtenir de l'information auquel ou à laquelle ils n'ont pas le droit d'avoir accès.
Mais oui, mais imagine, c'est, Paul!
C'est préoccupant.
Mais oui, c'est inquiétant.
Mais Isabelle, vous parliez des fax. Combien de fois on a vu sur des bureaux de travail d'infirmières, d'infirmiers, de médecins, à la vue de tout le monde dans un hôpital, dans une urgence, des fax qui rentrent pour informer sur des données ou un diagnostic quelconque? On est encore là à plusieurs égards. Et est-ce que parce qu'on s'en va avec le DSQ, parce qu'on s'en va avec la communication informatique, le logiciel, est-ce que ça va être plus sécuritaire?
Mais la preuve est ce matin que visiblement, poser la question, c'est y répondre. Et la réponse est non. Merci beaucoup, Paul Brunet. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Je vais vous donner la parole après ceci. On a également Steve Waterhouse qui est avec nous, spécialiste en sécurité informatique. 514-790-9850. Vous pouvez nous dire si vous êtes inquiet de savoir ce matin officiellement qu'il y a des données, peut-être sur votre dossier de santé qui circulent un peu comme ça, ou en tout cas qui sont accessibles à partir du moment où quelqu'un qui travaille dans le réseau de la santé puis qu'il y a des accès assez faciles, c'est-à-dire un identifiant puis un mot de passe, c'est tout ce qui est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le ministère de la Santé. C'est effectivement les deux affaires dont vous avez besoin. Puis là, vous rentrez allègrement là-dedans. Puis vous pouvez fouiller comme bon vous semble. À tout de suite, tout le monde. Pour me joindre, vous faites le 514-790-9850. Je vous demande ce matin si vous craignez pour vos données médicales personnelles à la suite là, de cette enquête du Journal de Montréal où on apprend finalement que la vie privée des patients peut être à risque parce que Québec est incapable de détecter les intrusions dans ce qu'on appelle le DSQ, c'est-à-dire ce fameux dossier Santé Québec où il y a toutes les informations médicales personnelles qui vous concernent. Jean, êtes-vous inquiète, ça?
Oui, ça m'inquiète. Moi, c'est surtout au niveau des assureurs que je me demande s'ils vont avoir accès éventuellement à ces données-là pour hausser sans qu'on sache, disons qu'on a un historique de cancer, qu'on ne dit pas nécessairement aux assureurs. Eux autres vont aller fouiller, ils vont avoir notre historique. Ces aspects-là, dans le futur, qu'on va voir qu'ils vont être capables de dire notre prime sans même qu'on ait donné nos informations santé. Ils le savent déjà à l'avance. Ça, c'est ça qui m'inquiète beaucoup.
Mais vous savez, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé là, de faire une demande d'assurance, puis la compagnie d'assurance demandait à ce que je lui donne le droit d'aller demander mon dossier à mon médecin. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour une compagnie d'assurance de pas être au courant de vos affaires. Ils sont pas mal, avec votre collaboration d'ailleurs, parce que si on refuse, ils refusent de nous assurer. Fait que je pense que de ce côté-là, est-ce que c'est pire? Je sais pas trop. Steve Waterhouse, qu'est-ce que vous en pensez, Steve?
Et ça, ce sont les compagnies qui demandent aussi, qui sont professionnelles et qui demandent la permission de ces assurés.
Si tu veux t'assurer, bien, tu donnes la permission. Fait que ça veut dire que la compagnie est déjà au courant. Parce que, voilà.
En quelque part, oui, mais je trouve ça triste qu'on en ait là aujourd'hui. Et d'un côté, si on se met du point de vue de l'assureur, c'est certain qu'il ne veut pas assurer pour le fun, puis après ça, dire qu'il paye pour rien. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a un respect à la vie privée qui doit être préservé.
Mm-hmm. On a François avec nous. Bonjour, François.
Bonjour.
On vous écoute.
Je travaille comme technicien dans les groupes de médecine familiale, les GMF.
Là. Oui.
Le DSQ, la technologie, c'est pas là qui est vraiment le trouble. Le vrai trouble, c'est vraiment le facteur humain parce que c'est pas vrai que ça prend juste l'identifiant et le mot de passe. Ça prend aussi le logiciel installé. Mm-hmm. Sur l'ordinateur. Puis ce logiciel-là, il n'est pas trouvable. Ben, il est trouvable dans les intranets, mais il n'est pas trouvable. Monsieur, madame, tout le monde, là, il ne trouvera pas ce logiciel-là. Fait qu'il pourra pas se connecter.
On a bien compris, ça prend quelqu'un qui travaille dans le réseau de la santé, mais ça fait quand même pas mal de monde là, qui sont potentiellement capables d'aller jouer là-dedans. Là.
C'est ça. Le bout qui manque, c'est vraiment ça, c'est la validation de qu'est-ce que les gens regardent.
Mais vous avez tout à fait raison de rappeler le facteur humain, comme vous dites, François, parce que ça nous fait tout à fait penser à Desjardins. Je vous en parlais tout à l'heure de la comparaison avec Desjardins. Elle est intéressante dans la mesure où, là aussi, c'est un employé de l'interne. Un gars visiblement pas très brillant qui s'est dit, pour quelques cartes cadeaux, d'après ce qu'on a compris, il est rentré dans le système, puis il a coulé plein d'informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les clients particuliers de Desjardins se sont fait voler leurs informations ou sont potentiellement à risque de s'être fait voler des données. Imaginez. Fait que ça prend. Oui, vous avez raison. C'est quelqu'un de l'interne, mais ça fait beaucoup de monde à gérer. Puis c'est là où Steve Waterhouse peut peut-être nous éclairer. Comment le gouvernement pourrait, merci François, comment le gouvernement peut faire en sorte d'éviter ce genre de bris de confidentialité?
Travail. Il y a une annonce, il n'y a pas longtemps, Isabelle, que le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre de la Transformation numérique ont annoncé qu'ils vont raffermir certaines règles, surtout du point de vue de justice, pour l'imputabilité et surtout les conséquences lorsqu'il y aura divulgation non autorisée. Puis ça, c'est dans un avenir rapproché, pas 10 ans, mais je me suis fait compter d'ici 1 an ou 2 que ça devrait prendre forme et qu'on va voir un résultat tangible. Et donc, ça fait partie de cette rééducation-là en termes de culture de travail qu'il faut prendre en conscience de protéger la vie privée des gens, protéger l'information avant tout, que ça soit rentable, mettons.
Ouais, mais comment y arriver?
Comment y arriver? Ben, c'est bien simple. C'est un, professionnellement, dire, ben, on va faire la bonne affaire. Et après ça, les organisations, les hôpitaux, les ministères, ben, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et revoient, justement, en profondeur la sécurité telle qu'on le décrit depuis tantôt pour qu'il y ait, justement, imputabilité puis qu'il y ait traçabilité de quelle requête était faite quand. Ça, c'est un travail, il faut qu'il soit fait de terrain et dans l'immédiat parce que c'est dénoncé depuis longtemps et il n'y a pas personne qui a pris acte. Donc, on en est rendu là. Les données, ça fuit tout partout, un peu comme l'eau dans le métro. Je veux dire, c'est la folie. Fait que oui, il faut reprendre contrôle de la situation.
Il y a quelqu'un là qui m'écrit, il veut rester anonyme, mais il travaille dans le réseau de la santé. Puis il dit, on a effectivement accès à une identification, un ID et un mot de passe, mais ça nous rend aussi imputables. Il y a Christopher qui nous appelle. Christopher, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute. Rapidement, on termine
oui,
là-dessus.
Donc moi, c'est... Oui, c'était simplement pour partager une anecdote. En fait, je me suis déplacé dans un hôpital pour une facture et puis j'avais remarqué que, dans le fond, le poste de travail des infirmières, il y avait un poste, ben, en fait, des collants avec le nom d'identifiant et le mot de passe collés sur l'écran.
Ben oui, tout à fait.
Puis moi, je travaille en sécurité informatique, puis je leur en ai parlé pour avoir leur...
On termine là-dessus, malheureusement. Merci de votre appel, Christopher, mais on comprend bien l'enjeu. Il y a plein de mesures là, qui doivent être prises. Merci, Steve Waterhouse.
C'est un plaisir. Bonne fin de journée.